De retour à l'émission Au gré du temps, nous sommes en compagnie de Pierre Maisonneuve, Armand Dubois au micro. L'épisode de la maladie fait en sorte que on prend conscience de certaines choses. Est-ce que, de votre côté, vous avez quand même eu l'occasion, à travers vos émissions, de traiter souvent de questions qui traitaient de maladies, de découvertes au niveau des traitements? Est-ce que cela, ça vous a aussi transformé?
J'ai, comme ça fait longtemps que je suis dans le métier, lorsque je suis arrivé dans le métier, Jean Lesage était premier ministre du Québec.
Ça fait un petit peu longtemps.
Alors, il n'y avait pas encore de castonguette.
Non.
Et moi, j'ai vécu l'expérience, je vais vous dire, j'ai vécu l'époque où nos parents ne pouvaient pas se faire soigner.
Et votre père a été malade aussi?
Mon père a fait une première crise cardiaque, j'avais 10 ans. Mm-hmm. Le médecin l'a mis au repos pour un mois. En lui demandant de revenir le voir parce qu'il avait perdu connaissance sur un chantier de construction. Il a été gardé à l'hôpital 2 jours. Il est revenu à la maison et c'était le début de la semaine. Il a pris quelques jours et le lundi suivant, il était de retour sur les chantiers de construction. Il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas d'assurance. Il n'y avait pas les moyens de rester à l'hôpital et il n'y avait pas les moyens de ne pas travailler. Il y avait une famille à faire vivre. Il a survécu à ça pendant une quinzaine d'années ensuite. C'est d'ailleurs pourquoi tout cet épisode-là, il est arrivé un moment où il pouvait moins travailler, où on a aidé, nous, les enfants. Et c'était une solidarité. Mm-hmm. C'était le clan familial.
Tout à fait.
Solidaire. Et donc, pour moi, j'ai vu arriver l'assurance maladie du Québec. J'ai vu naître tout ça. J'ai couvert les premières transplantations cardiaques à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, j'ai vécu toute la transformation du système jusqu'à sa détérioration, à un moment donné. Mais par contre, les émissions, par les reportages que j'ai pu faire, par l'émission Découverte oui. que j'ai animée, j'ai côtoyé des gens qui travaillent mais à des découvertes, des gens qui travaillent dans l'ombre, des gens que l'on ne voit pas toujours parce qu'ils n'aiment pas les médias. Vous savez, un jour, je devais rencontrer un spécialiste de la recherche sur le cancer et c'était à l'Institut de recherche clinique de Montréal.
Oui.
Et c'était un bonhomme qui n'aimait pas les journalistes. Et j'ai su pourquoi. Il n'aimait pas le journaliste qui venait lui faire perdre son temps parce qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Mm-hmm. Bien sûr, je n'étais pas un spécialiste, moi, de ces recherches, mais j'avais pris la peine de lire et d'essayer de comprendre quelques-uns des textes qu'il avait publiés. Il devait m'accorder 10 minutes, l'entrevue a duré 1 heure. La rencontre a duré 1 heure parce qu'il s'est aperçu que j'essayais de suivre son raisonnement, je lui posais des questions, mais qui n'étaient pas des questions idiotes, qui lui faisaient perdre son temps. Et ce fut une rencontre magnifique. Et donc, ça, pour moi, ça m'a changé dans le sens où je me dis qu'on doit subventionner la recherche, qu'on doit subventionner nos médecins. On doit libérer même nos chercheurs de la recherche qui est toujours dépendante d'un commanditaire.
Oui.
On doit trouver le moyen. Mais c'est évident que ma perception... Tiens, je vais vous raconter une anecdote, si vous me permettez.
Parce que j'allais dire, avant que vous racontiez cette anecdote, je me souviens fort bien de l'époque que vous évoquez, parce qu'à ce moment, je couvrais la santé, et vous étiez à Découverte, et il nous arrivait très souvent de croiser la route et d'avoir à rencontrer les mêmes personnes, parce qu'une découverte qui fait la manchette nécessite une bonne couverture.
Mais une découverte qui fait la manchette, il faut être très prudent. Mm-hmm. Je vais vous dire pourquoi, parce que chaque fois que nous parlons en ondes de santé, d'un nouveau médicament, de nouvelles techniques, ces choses-là, on crée beaucoup d'espoir. Donc, il y a des étapes dans l'information. Et si vous arrivez avec une nouvelle qui est mal faite, vous pouvez créer un espoir démesuré chez une personne qui souffre chez elle et qui pense que le traitement est pour elle.
Le plus bel exemple, c'est ce qui est survenu l'année dernière avec l'histoire des pathologistes et les tests à l'égard du cancer du sein.
Imaginez là, cette histoire-là. Avec toutes les personnes qu'on n'a pas pu rejoindre, mais il faut rejoindre ces personnes-là. Il fallait le faire, on a peut-être trop attendu, mais nous devons être prudents lorsque nous abordons les questions de santé. à l'antenne. Parce qu'on peut créer des paniques, on peut créer de faux espoirs.
D'où la responsabilité journalistique qui est très, très, très grande.
Mais j'allais vous dire une chose. Vous me demandez si à travers notre travail, on peut mieux comprendre. Je me suis retrouvé en Afrique, au Burkina Faso, dans un village lointain, à écouter un film, et un film dans un cinéma en plein air. Et j'avais eu un premier incident cardiaque, un premier pontage. Et là, j'étais là, et je me souviens d'avoir pensé à une chose. Ici, s'il m'arrive quoi que ce soit, il n'y a personne pour m'aider. Peut-être qu'une infirmière dans un dispensaire, mais il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a que ce ciel étoilé.
C'est là où on réalise l'importance du filet social que
nous
avons.
Oui, mais par contre, je vous avouerai que je n'ai pas eu un moment d'angoisse parce que je ne devais dépendre que de moi-même et que du destin, du hasard de la vie. Et on a parfois des angoisses quand on vit à proximité d'un hôpital, mais là, je n'avais pas d'angoisse.
Et s'il y en a une qui pouvait peut-être un jour atténuer les angoisses de ceux qui se mettaient à son écoute, c'est bien Maria Callas.
Eh oui.
Un extrait depuis le jour, un extrait donc de l'opéra Louise de Gustave Charpentier, cet extrait de l'acte 3. On parlera musique à son retour.
Parfait.
Pierre Maisonneuve, lorsque vous écoutez Maria Callas, je ne sais pas si vous avez la même vibration que celle qui m'anime, mais c'est à chaque fois le miracle.
Je n'ai pas cette connaissance assez approfondie de l'opéra, de ses voix d'opéra. Il y a des airs, naturellement, des airs plus, qui sont devenus plus populaires qui m'atteignent. Mais moi, Maria Callas, pour moi, c'est le destin. Le destin, c'est la rencontre de deux êtres Maria Callas, un destin difficile pour elle. Autant de talent. Vous savez, ça me rappelle même des gens d'ici là, qui ont vécu des destins là, extrêmement difficiles après avoir connu la gloire. Elle, elle avait connu l'amour avec l'homme le plus riche.
Et la misère aussi avec cet homme.
Oui, et la misère. Donc, ce sont des êtres d'une fragilité, en quelque sorte, émotive. Et,
mais qui ont donné leur âme à travers leur art.
À leur art. Mais ça, vous savez, des fois, les gens nous demandent pourquoi vous ne décrochez pas d'un métier que l'on fait avec passion. Et Maria Callas ne pouvait pas décrocher. D'autres ne peuvent pas décrocher. Des comédiens ne peuvent pas décrocher. Paul Hébert, que j'admire, si vous offrez un rôle à Paul Hébert, aujourd'hui, va-t-il vous répondre « Non, je suis à la retraite » ou bien non, s'il va dire « Oui, je le veux, ce rôle », s'il sent qu'il est capable de le faire. Et donc, mais comme je vous dis, pour les aides de Maria Callas, j'aime les belles voix. C'est évident, mais je ne connais pas assez Maria Callas pour vibrer comme vous le faites.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique?
Oui, mais moi, je suis vraiment là un gars de la chanson française. Je suis un gars des chansonniers. J'aime Léveillé, j'aime Gautier, j'aime Vigneault, j'aime Joe Dassin. J'ai adoré Brel. Pour moi, Brel, là, ce fut là, l'homme là, qui nous a atteints. J'entends parfois Le Bigot, la passion de Le Bigot pour Jacques Brel. Pour moi, c'est la même chose. J'aime les chansons à texte.
Alors, pour vous faire plaisir, un chansonnier bien de chez nous, qui est un peu plus rythmé que Claude Léveillé ou que Gilles Vigneault, c'est Robert Charlebois, cette belle chanson « Je reviendrai à Montréal ».
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver, ces aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal. Écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs.
Nous sommes bien sûr revenus à Montréal avec Pierre Maisonneuve, mais aussi dans toutes les autres stations du réseau de Radio Ville-Marie, parce que vous savez, Pierre, que nous diffusons maintenant à Rimouski, dans le bas du fleuve. Alors, on salue les auditeurs de cet endroit. Vous disiez aimer la musique des chansonniers.
J'aime une chanson à texte. Et je vais vous donner un autre exemple. J'aime les chansons de liberté. les chansons. Vous savez, Bernard Landry avait eu un jour ce fameux mot, les chiffons, un chiffon rouge, en parlant de drapeau, et en tout cas, on avait associé ça au drapeau canadien, parce que c'était une question où on voulait que des drapeaux soient placés sur, lorsque c'était subventionné.
Ah oui.
Puis il avait parlé du chiffon rouge et on avait beaucoup blâmé. Mais il y a une très belle chanson qui s'appelle « Le chiffon rouge » et qui était la chanson de ralliement pendant des grèves, des grandes grèves en France. Accroche à ton cœur ce morceau de ce chiffon rouge couleur de sang. Et bon, mais c'était une chanson d'engagement. La chanson, par exemple, des partisans.
Oui.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, les partisans français. Récemment, j'ai découvert un CD, c'était Les Chants de liberté, entre autres avec Yves Montand, qui chante une très belle chanson, La colline rouge. Moi, j'aime ces airs qui me rappellent des moments de souffrance. Par exemple, au Galdé, je disais, il fait la balade nord-irlandaise.
Ça, c'est le harpiste que nous avions écouté la semaine dernière.
Oui, le harpiste qu'on avait rencontré la semaine dernière. Ben, cet harpiste-là, il fait la balade nord-irlandaise. Ben là, ça nous rappelle tout ce combat tragique en Irlande du Nord, tout ce combat tragique entre des Irlandais, et parce qu'ils ne sont pas de même religion, quelle absurdité, mais quelle vie, quelle tragédie. Et ça me fait vibrer. Le déserteur, par exemple,
oui.
Cette chanson, Le déserteur, que moi, j'ai toujours aimé, parce que c'est cet homme qui dit « Je ne veux pas aller à la guerre ».
Qui a été popularisé par Mouloudji, la chanson de Boris Vian, je crois.
Oui, chanson de Boris Vian. Attendez, est-ce que c'est Mouloudji ou Reggiani? En tout cas, moi, je l'ai entendu la première fois avec Reggiani.
C'est possible.
Et qui, je me souviens de l'endroit où j'ai entendu cette chanson-là. C'était près de la rivière des Milliers. Je me souviens, là, comme si c'était hier. Donc, j'aime. Et j'ai de la difficulté avec les musiques d'aujourd'hui où la musique enterre les paroles. Moi, au départ, ce qui m'atteint, ce n'est pas la musique.
Ce sont les textes.
Ce sont les textes et après. Et autrefois, vous aviez le texte et la musique venait envelopper le texte, mais ne venait pas dominer le texte.
Alors, on va vous faire encore une fois un beau cadeau, Pierre, puisque vous aimez Gilles Vigneault.
Ah oui.
Gilles Vigneault a fait une rencontre merveilleuse un jour avec un groupe qui a pour nom les Charbonniers de l'Enfer.
Ah oui, quelle belle rencontre!
Une rencontre extraordinaire. Et ils ont produit un disque sur lequel Vigneault et les Charbonniers de l'Enfer reprennent certains textes de Vigneault de manière extraordinaire. Il y a une chanson qui, pour moi, évoquait un peu Pierre Maisonneuve, puisqu'elle porte un peu le titre d'une émission que vous avez animée, Découverte. En fait, c'est La Découverte. Gilles Vigneault raconte un peu l'histoire de Cartier et des premiers jours de la Nouvelle-France.
C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau. C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau.
Compagnons, maître ou capitaine, nous étions bien la soixantaine, de tous âges et de tous métiers. Ayant recommandé nos âmes, le 20 avril à pareille âme, sous la gouverne de Cartier. En 20 jours de vent favorable, par les étoiles secourables, nous voici parvenir au bord, que nous nommons la Terre Neuve, juste à la porte d'un grand fleuve, qu'il nous faut explorer d'abord.
C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau. C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau.
Passer le détroit de Belle-Île, mettant le cap sur d'autres îles, et jusqu'à la baie des Chaleurs. À Gaspé, Cartier nous commande d'élever une croix très grande au nom du roi et du sauveur. La voyant, les indigènes prennent peur, mais leur capitaine avec ses 3 fils va nous voir. Par des présents, on les rassure, des vêtements et des parures, et des couteaux et des miroirs.
C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau. C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau.
Après avoir fait grande chair, deux des enfants du chef restèrent, qui viendront en France avec nous. Puis nous cinglons vers d'autres terres, et jusqu'au détroit de Saint-Pierre, le premier jour du mois d'août. Mais déjà, les vents nous dépêchent, nous prenons du bois de l'eau fraîche, et filons jusqu'au Cap Thiénot. C'est là barque des pêcheurs nous dire de l'amour vu plein leur navire qu'ils repartaient pour Saint-Malo.
C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau. C'est en remontant la rivière qu'on apprend le sens de l'eau.
Avant que les temps nous affrontent, avant que la mer se démonte, levons la voile du retour. Thomas Aubert, je vous salue, et tous les pêcheurs de morue venus sonder les alentours.
Belle chanson, n'est-ce pas, Pierre?
Oui. Vous avez dit Cartier et les premiers jours de la Nouvelle-France. J'ai hésité quand je vous ai présenté une pièce la semaine dernière de Vigneault. Il y a le chant du portageur.
Mm-hmm.
Et il y a eu cette série au réseau TVA, cette série de refaire le tracé. On avait fait de Montréal à Winnipeg, là, puis après ça, on a fait de l'Alberta vers le Pacifique. Voilà. Une aventure extrêmement difficile, mais qui nous ramène à ces premiers habitants. D'abord, les Amérindiens. Les Amérindiens qui n'ont même pas encore trouvé... On n'a même pas reconnu encore leur véritable place. Il y a des gens qui vivent des drames sociaux chez les Amérindiens à travers tout le Canada. Je pense que c'est notre honte canadienne, le sort de nos Amérindiens. On se préoccupe beaucoup de ce qui se passe dans d'autres pays face aux populations.
Ça vous tient à cœur, ce genre de cause?
C'est parce que... là, j'ai une petite parenthèse. Ma petite fille, elle est à 25 % cri. Elle en a... Je voyais un reportage l'autre jour et je trouvais qu'il y avait une petite fille qui lui ressemblait dans ce reportage-là. Mais ce n'est pas tant pour ça. Je pense avoir toujours été préoccupé par le sort des gens. Vous savez, les jeunes qui sont accros à la drogue parce qu'on ne leur donne pas d'autres défis. Les jeunes qui ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas reconnus. Si j'étais Amérindien, je serais en colère. J'aurais une grande colère. Et il faut comprendre ces moments de grande colère qui se manifestent à un moment donné. Quand on a parlé d'entente, je me souviens, j'ai fait des émissions à ce sujet-là, quand on a parlé d'entente là, territoriale, les critiques là, des non-autochtones, si vous pensez qu'ils vont avoir tous les droits puis qu'ils vont nous prendre tout le territoire, c'était même pas ça. On ne lit même pas les textes, on ne voit même pas les ententes. Mais ils étaient là, bien avant nous. Mais en même temps, ce chant du portageur me renvoyait à tous les efforts de ce que ces voyageurs là, qui remontaient. Moi, je fais du canot, je les descends les rivières, je ne les remonte pas, c'est trop difficile. Alors, qui remontaient les rivières, qui franchissaient par le nord de l'Ontario, qui se rendaient, qui ont parcouru l'Amérique, là, c'était des hommes et des femmes de courage.
À travers vos propos, on retrouve la passion du Pierre Maisonneuve que l'on connaît sur les ondes, toujours aussi investi de ce dont il parle, parce qu'il en parle avec passion et avec aussi ce sens de l'humaniste dont je disais que vous étiez un grand humaniste par votre approche. Et j'allais terminer cette émission en vous posant une question toute simple. Est-ce que pour vous, la vie intérieure occupe une place importante?
Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Mais c'est... vous savez, je travaille un dossier actuellement. Et ce qui me frappe dans ce dossier-là, parce que ça rejoint la spiritualité, et c'est un projet d'une rencontre avec une personnalité où je veux comprendre... Il y a des gens qui... On a fait partir bien des choses. On s'est révolté contre une situation, mais il y a des gens qui sont restés très fidèles à une démarche spirituelle, mais à mon avis, ça s'est fait beaucoup trop dans le silence. Il y a des écrits, là. Il y a Pierre Vadeboncœur qui a un livre magnifique actuellement, La clé de voûte, qui a une démarche spirituelle, là, je ne croyais pas. Vadeboncœur, je l'ai connu quand il était à la CSN, je ne l'ai pas connu comme étant un auteur d'une grande spiritualité.
Et il y a des jardins secrets comme ça.
Il y a des jardins secrets, mais il ne faudrait pas qu'ils restent trop secrets. Il faudrait qu'ils jaillissent dans la lumière.
Alors, on compte sur vous, Pierre, pour nous les faire découvrir, ces jardins, parce qu'on vous souhaite encore une longue carrière, même si on regarde derrière et on constate l'ampleur du chemin parcouru.
Je ne partirai pas à la retraite sur une canne.
Pierre Maisonneuve a été avec nous au cours des deux dernières semaines. Merci infiniment pour cette grande générosité à l'antenne. On vous souhaite une excellente saison dans le cadre de votre émission et revenez nous voir. Ça va toujours nous faire un grand plaisir de vous accueillir.
À la prochaine, Armand. Merci.
Merci. C'était l'émission Au gré du temps. Pierre Maisonneuve était avec nous. Armand Dubois, micro, qui vous souhaite une excellente semaine. Cette émission s'est faite sous la supervision du technicien Alain Primo. Au plaisir. Au revoir.